d'histoires et contes.
La Gomera. Après avoir quitté Palos, l'amiral avait longé la côte africaine pendant plusieurs jours, puis mis le cap à l'ouest. Les trois navires cinglaient les flots à bonne allure grâce au vent nord-nord-est qui soufflait assez régulièrement. Debout sur le château avant, Don Cristobal fixait l'horizon. Une escale était encore nécessaire avant la grande aventure. Aussi, réfléchissait-il à optimiser la courte période où il resterait à l'ancre. Une image insistante flottait devant ses yeux, celle d'une femme exceptionnelle qu'il avait entreaperçue à deux reprises, une fois à Séville et une autre à la Gomera. Sa réputation de plus belle femme du royaume n'était pas usurpée. On pouvait comprendre qu'Isabelle de Castille l'ait envoyée en exil dans ces îles. Elle pouvait être une rivale redoutable, d'autant plus qu'elle avait été l'amante de son époux Ferdinand, désormais roi d'Espagne. Isabelle l'avait obligé à épouser Hernán Peraza, gouverneur de la Gomera. On disait Béatrix cruelle. Accepterait-elle de l'aider à améliorer les conditions de son voyage? Car le gouvernail axial de la Pinta était endommagé et la caravelle prenait eau. Et il aurait bien voulu changer ses voiles ainsi que celles de la Niña, qui n'était pas assez rapide. L'histoire du gouvernail le tracassait un peu. Il savait que certains hommes embarqués dans cette expédition n'avaient aucune envie de risquer leur vie en se jetant dans l'inconnu. Il était clair qu'un bon nombre d'entre eux préféreraient que le voyage s'acheva dans les îles Canaries. Son recrutement, en effet, était pour le moins hétéroclite. Les équipages ne partageaient pas tous son enthousiasme pour la découverte d'une nouvelle route maritime. Certains matelots se contentaient de fuir la justice espagnole, trop heureux d'échapper à la prison en signant pour cette équipée. Quelques juifs faisaient partie de la traversée pour le seul motif que le jour même de leur départ, un édit royal avait condamné tous les non-convertis au bannissement. Bref, le gouvernail défectueux et le mauvais état de la Pinta pouvaient très bien faire partie d'un complot pour mettre un terme prématuré à cette entreprise. S'ils pouvaient échanger la Pinta contre un navire plus grand et en bon état, il augmenterait ses chances de réussite. Le marin, posté à la une, se mit à crier. Terre, terre! Et, en effet, on commençait à distinguer les reliefs volcaniques de l'île de Lanzarote. Don Cristobal avait résolu de laisser la Pinta et la Niña à El Real de las Palmas, à Grande Canaria. Il commanda les travaux qu'il souhaitait, à peine débarqués au port, qui grignotait la palmeraie. Puis poursuivit sa route jusqu'à San Sébastien de la Gomera. Cette île est très riche en eau douce, grâce à une singularité géographique. La couche nuageuse se forme à la même altitude que son sommet. Il en résulte une humidité permanente sur les parties hautes du relief, permettant le développement d'une archaïque forêt dense de lauriers qui retient l'eau grâce à sa couverture de mousse qui s'égoutte sur le sol. Les couches supérieures des édifices volcaniques se gorgent d'eau et plus bas, de nombreuses sources ou cascades naissent, apportant l'eau douce propice à l'agriculture et à la vie quotidienne. Don Cristobal et l'équipage de la Santa Maria débarquèrent ainsi le 8 août 1492 dans la crique de la principale ville de la Gomera, établie à la confluence de deux larges vallées. Il alla immédiatement se présenter à la maison de Béatrix de Bobadilla. « Elle est partie pour Grande Canaria », lui apprit-on. Déçu, Don Cristobal loua une maison dans la petite bourgade et commença à organiser le ravitaillement de son navire en eau douce, en bois sec pour la cuisine et en denrées diverses. Il fit monter également dans sa caraque quelques chèvres locales et des moutons. Il aurait bien voulu renforcer son équipage de quelques bras, anticipant sur des pertes possibles durant son périple, et il se renseigna auprès des marins locaux. Mais lorsqu'il annonça de quel pari il s'agissait, personne ne se porta volontaire. « Demandez plutôt à des Gomeros, » suggéra quelqu'un. « Ils sont robustes et n'ont plus rien à perdre. » Mais des Gomeros, il n'y en avait quasiment plus dans la ville. Depuis la révolte de 1488, si durement réprimée, les survivants évitaient d'approcher leurs conquérants en qui ils avaient perdu toute confiance. Seuls, quelques jeunes osaient encore se risquer sur les quais à la recherche de menus restes oubliés par des pêcheurs. Don Cristobal aborda l'un d'eux. « Y aurait-il dans votre peuple des hommes disposés à prendre la mer avec moi ? Où allez-vous ? » demanda le jeune aborigène. « De l'autre côté de l'océan, » dit l'amiral, en pointant un doigt vers le couchant. « Alors peut-être, » dit le jeune homme, « je vais demander. » Il enfonça son majeur replié dans sa bouche, roula la langue en lui donnant une forme de U, et se mit à siffler curieusement. On aurait dit le chant d'une grive musicienne, mais en plus varié. Bientôt, un sifflement aussi riche en modulation lui répondit depuis une crête voisine. Il y eut ainsi quelques échanges, puis le jeune homme répondit. « Trois hommes seraient partants. »« Quel est ce prodige ?» s'exclama Don Cristobal. « C'est notre langage sifflé, le silbo. Nous communiquons comme cela d'une vallée à l'autre. »« Et vous pouvez construire des phrases ?»« Bien sûr, on peut exprimer presque autant de choses qu'avec notre langue. » Don Cristobal s'émerveilla et se persuada que des gens capables de tels exploits pourraient lui être précieux dans un environnement inconnu. « Alors, siffle-leur qu'ils se présentent à moi dans une semaine sur le port au lever du jour. Leur salaire sera de 10 maravédis par jour. » Tandis que les hommes de l'amiral faisaient la chaîne avec des seaux depuis le puits situé à proximité du port, Don Cristobal s'enquit des nouvelles de la cité. 4 ans auparavant, une rébellion des autochtones avait eu lieu et le mari de Béatrice avait été tué. Le roi des aborigènes avait lui-même, par la suite, été transpercé par une flèche. Béatrice s'était réfugiée dans la Torre del Conde. Puis, elle avait imploré l'aide du gouverneur de Grande Canaria, avec lequel elle avait massacré une bonne partie des hommes originaires de l'île et vendu comme esclave la moitié des femmes. Depuis, les aborigènes la redoutaient. Le 23 août, Béatrice n'étant toujours pas revenue à la Gomera, et ni la Pinta ni la Niña n'étant réapparues, Don Cristobal leva l'ancre pour El Real de Las Palmas. En route, il croisa sur bâbord un grand navire qui naviguait toute voile dehors. « Voilà la nef qu'il me faudra, » pensa-t-il. Il débarqua à Grande Canaria, rechercha le palais du gouverneur où il pensait que Béatrice séjournait. « Elle est repartie ce matin. Vous avez dû la croiser, l'informa-t-on. » Don Cristobal dut fortement se maîtriser pour masquer sa colère. Néanmoins, il partit inspecter ses deux bateaux et constata que les voiles carrées n'étaient pas toutes en place. Or, les voiles latines s'étaient révélées peu efficaces en vent arrière. Les voiles carrées étaient donc indispensables pour la réussite de la traversée. Il dut attendre 10 jours encore pour la réparation de la Pinta et le gréement complet des deux caravelles. Le 6 septembre, les 3 navires hissèrent enfin les voiles pour la Gomera. Don Cristobal, à peine à terre, se dirigea vers la maison de la comtesse Béatrice. Cette fois, elle était là. Lors des précédentes occasions où il l'avait aperçue, son rang de matelot ou de second ne lui avait pas permis de s'adresser à elle. Mais cette fois, il possédait le titre d'amiral et de vice-roi de toutes les terres qu'il trouverait. De plus, Ferdinand II lui laisserait 10% de toutes les richesses qu'il découvrirait. Tout cela, pensait-il, ne manquerait pas de lui conférer un certain prestige auprès de Béatrice de Bobadilla. « Madame vous fait dire qu'elle pourra vous recevoir demain en fin d'après-midi, » lui annonça un domestique. L'amiral, dépité, s'en retourna à ses 3 bâtiments et ordonna aux matelots de compléter les réserves d'eau, puis de s'approvisionner en orge, en lard et en sel. Le lendemain, à l'heure dite, Don Cristobal se présenta chez la noble Béatrix. Celle-ci le reçut dans un salon spacieux, au plafond latté en pin soutenu par des poutres en bois foncé et où les ouvertures étaient voilées de volets finement ajourés. « Madame, dit-il ébloui par la beauté et le maintien de son hôtesse, sachez combien je suis honoré d'être reçu par une personne de votre rang. L'aide que vos intendants ont bien voulu nous accorder dans le ravitaillement de nos navires nous sera précieuse et je vous en remercie. » Voilà donc celui qui a durant 6 années demandé l'appui du roi pour son projet original. Votre arrivée nous avait été annoncée avec la consigne de vous assister dans vos préparations de voyage. Madame, j'ai profité de ma solitude ici pour refaire une nouvelle fois mes calculs. Je pense atteindre les Indes d'ici 3 semaines. J'en rapporterai l'or et les épices tant décrits par Marco Polo. J'admire votre courage. Votre confiance en vous me paraît à même de vaincre des difficultés que la plupart des hommes, même bien nés, sont incapables d'affronter. Vous me flattez, madame. Je sais que votre tante, Béatrix, la marquise de Moya, m'a soutenue auprès de la cour d'Espagne. Aussi ai-je la faiblesse de croire qu'il en va de même pour vous. À ces mots, une bouffée de colère mêlée d'orgueil envahit la comtesse. Bien sûr, le Génois n'était pas censé connaître tous les dessous de son histoire, mais sa dernière phrase avait eu l'effet d'une lame d'acier qu'on aurait enfoncée dans une plaie suppurante. Car l'idée de lui faire épouser cet assassin de Peraza venait bien de la marquise de Moya. Hernán Peraza avait tué l'envoyé du roi qui convoitait les îles Canaries, Juan Rejón, et aurait dû être lui-même exécuté. Mais voilà, en Espagne, un chevalier meurtrier pouvait être gracié à condition d'épouser une prostituée. Le mariage forcé avec cet individu, qui possédait 4 îles sur les 7 convoitées par la couronne d'Espagne, représentait donc un coup double. Béatrix était écartée du roi, son amant, avec rang de prostituée, et l'Espagne pouvait récupérer la Gomera, El Hierro, Lanzarote et Fuerteventura. Ne restait plus qu'à soumettre les 3 autres îles. Je vous souhaite de réussir, monsieur. Cependant, mon exil forcé, la mort de mon mari, les combats que j'ai dû mener ici pour sauver ma propre vie, me montrent à quel point il est difficile de prévoir l'avenir. Certes, mais selon les dernières données concernant la forme de la Terre, et grâce aux instruments actuels de navigation comme la boussole, l'astrolabe ou les portulans, les risques sont minimes. Toutefois, un de mes bateaux n'est pas en très bon état. Aussi ai-je l'honneur de solliciter auprès de vous un échange entre la Niña et le voilier que j'ai croisé il y a 2 semaines et qui mouille ici même. » Béatrix prit une expression légèrement condescendante. Ce marin, inconscient des blessures qu'il ravivait en elle, ne lui déplaisait pas totalement. Il était grand, blond aux yeux bleus, sûr de lui à l'extrême. Ainsi donc, tel était l'objet de votre visite ? Non, madame, mon but était seulement de vous exprimer ma gratitude. Cependant, je vous propose de vous dédommager à mon retour avec une part des richesses que je vais immanquablement récolter aux Indes. Une pointe d'ironie perça dans le regard de Béatrix. Elle n'avait qu'un objectif, devenir reine des îles Canaries et ainsi se réhabiliter. Je suis touché par votre générosité, mais ne puis accepter. Le bateau que vous mentionnez m'est nécessaire, compte tenu de l'instabilité des populations locales. Vous embarquez d'ailleurs avec vous quelques-uns des primitifs de cette terre, m'a-t-on dit. Avez-vous oublié qu'ils ont assassiné mon mari et qu'ils ont failli en faire autant avec moi ? Sans l'intervention de M. Pedro de Vera, le gouverneur de Grande Canaria, je ne serais sans doute plus là. « Ce sont nos ennemis, » insista-t-elle. « J'ai appris tout cela, en effet, et en quelles circonstances ?» Béatrix fronça un sourcil. Souligner le contexte dans lequel Peraza avait été tué était offensant. Certes, il avait rompu le pacte de colactation établi par son prédécesseur, consistant à boire du lait de chèvre avec les chefs locaux dans un même récipient. Ce rituel signifiait que les Espagnols et les Gomeros de cette vallée devenaient frères et sœurs. Or, les relations sexuelles entre personnes d'une même tribu, de sang ou de lait, étaient strictement interdites et punies de mort par leur loi. Peraza était tombé amoureux de la belle Abilia, prêtresse des Hippalas, à qui revenait cette partie de l'île. Et ils avaient été surpris dans une grotte comme amants. Upalupa, le chef des Hippalas, avait alors réuni son conseil qui avait condamné Peraza. Ce dernier avait été abattu d'une flèche à la sortie de la caverne. Une révolte générale des Gomeros contre les envahisseurs qui avaient transgressé leurs tabous en était résultée. Les Gomeros ne sont fréquentables que morts ou comme esclaves, répondit Béatrice. On l'avait forcé à épouser ce Hernán Peraza pour des raisons politiques et celui-ci l'avait trompé avec une aborigène, double humiliation que ce navigateur avait la maladresse de lui rappeler. Grâce à ce tyran de Peraza, elle aurait pu devenir reine des Canaries et racheter son honneur. Mais maintenant, elle se retrouvait seule, dans une insécurité totale. Comment pouvait-il oser lui demander sa plus belle nef en y faisant de plus monter ce qui la menaçait? Ses vues étaient tout autres et elle n'avait pas renoncé à redevenir maîtresse de ces îles ingrates, désormais avec l'appui d'Alonso Fernandez de Lugo en route pour la conquête de l'île de la Palma. Elle se leva pour mettre fin à l'entretien. « Merci pour votre visite, monsieur, et que les vents vous soient favorables. »